Voici le journal de Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le succès controversé du CBD dérivé du cannabis, des ventes en plein essor, un salon dédié ce week-end à Paris, mais encore beaucoup de réticences du gouvernement. Reportage à suivre. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon devient l'Union populaire. Lancement ce week-end à Reims. Objectif, séduire de nouveaux électeurs. Nous y serons. Nous irons à Londres. La presse anglaise en sait plus sur l'assassin présumé du député conservateur vendredi. Aux États-Unis, où Apple revoit à la baisse la production de son dernier iPhone, confronté à la pénurie de puces électroniques, et puis dans l'atelier du maître Botticelli, exposition à Paris que nous présentera Isabelle Pasquier.
Les invités de cette matinale à 7h50, Karine Bécart, vous recevrez.
Eh bien, on l'a entendu il y a une dizaine de minutes, le chanteur Malik Djoudi, il vient de sortir un troisième album, il part bientôt en tournée, et il est ce matin sur France Inter, rendez-vous à 7h50.
Et à 8h20, nous recevrons l'historien Benjamin Stora, au lendemain de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961. C'est donc un marché en pleine croissance.
Celui du CBD, le cannabidiol, molécule extraite du chanvre et qui, contrairement au cannabis, ne contient pas ou très peu de THC. Ce produit a été légalisé il y a un an. En France, on compte aujourd'hui 1700 magasins spécialisés. Les buralistes réclament même le droit d'en vendre. Mais le gouvernement reste très méfiant et veut interdire certains produits à base de CBD. Alors les professionnels s'inquiètent. Exemple à Paris, Porte de la Villette, où se tient ce week-end le premier salon pour professionnels. Reportage Marion Ferrer.
Dans les allées du salon, les tisanes côtoient les crèmes de jour, les huiles pour cigarettes électroniques ou encore, plus surprenant, des produits pour animaux domestiques. Le secteur ne cesse de s'étendre et de séduire. Patrick Béduet, fondateur de CBD Expo.
Là, on dénombre à peu près 150 boutiques, Paris et sa couronne. On est à plus de 800 en France. Ça n'arrête pas. Maintenant, il y a des structures de franchise qui se sont mises en place.
Une concurrence que certaines marques voudraient voir se réglementer plus sérieusement. Brice Massex travaille pour le grossiste 1-2-3 CBD.
Nous, c'est pas du cannabis, mais on n'a pas non plus le droit d'avoir un discours qui pourrait s'apparenter à un discours médical. On doit rester dans notre partie, qui est la partie bien-être. Donc on n'est ni dans le récréatif, ni dans le médical. Donner des informations qui restent dans ce cadre-là.
Actuellement, 0,2% de THC sont tolérés dans ces produits. Mais l'enjeu, c'est aussi la nouvelle réglementation. Le futur arrêté prévoit d'interdire la vente directe de fleurs à fumer et de tisanes. Une perte énorme pour les producteurs. Aurélien Delecroix, président du syndicat professionnel du chanvre.
Ça, c'est la moitié du marché. Les fleurs à fumer, aujourd'hui, c'est un véritable outil de réduction des risques pour les consommateurs de cannabis. On va restreindre le marché français. Mais les acteurs étrangers, eux, vont pouvoir continuer à inonder notre marché. D'un point de vue économique, c'est catastrophique.
Un marché estimé à plus d'un milliard d'euros par les professionnels du secteur.
Reportage Marion Ferrer. Il promettait un retour en force sur les ronds-points faibles. Mobilisation des gilets jaunes hier. Quelques dizaines à chaque fois. Rassemblement fugace pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat. Des préoccupations qui, pour l'instant, ont du mal à peser sur la campagne pour la présidentielle. Au grand dam de la gauche, Jean-Luc Mélenchon lance ce week-end à Reims, son nouveau mouvement. Exit la France insoumise, place à l'Union populaire. Nouveau nom, nouveau slogan, nouvelle couleur pour élargir la base électorale. Pour l'instant, dans un contexte peu favorable. Sur place, Laurence Perron.
Comment galvaniser les troupes à l'aube d'une campagne qui s'annonce compliquée ? Daniel Simonet en preuve de porte-à-porte et de méthode d'engagement, l'eurodéputé Manon Aubry en collectrice de fonds, Guillaume Sériès en recruteur de signatures de maire, enfin le coordinateur de la France Insoumise, le député Adrien Quatennens, qui fait, lui, assaut de cinéphilie pour un bilan critique du quinquennat Macron.
Le dernier film de Dupontel a un très bon titre, lui aussi.
Les insoumis présents sont nécessairement conquis, même l'éparpillement à gauche n'inquiète pas, outre mesure Francis.
On peut assister à des décantations, y compris à l'intérieur du Parti communiste. Je crois savoir qu'un certain nombre de camarades ne sont pas forcément ravis de la candidature de Fabien Roussel. Du côté des Verts, la ligne politique de Jadot n'est pas forcément celle de tous les militants des Verts.
Une petite dame interrompue dans sa course.
Je suis tellement en retard, un peu plus, un peu moins.
Bon, oui, c'est ça. Alors c'était pour savoir. Est-ce que vous trouvez ça dommage que cette gauche soit complètement divisée ou est-ce que...
Il n'y a pas de gauche divisée. Il y a une gauche, c'est nous, c'est tout. En pleine pandémie, les gens du 440 continuent à s'enrichir. Il y a des étudiants qui n'ont pas de quoi bouffer. Faut arrêter, quoi. Ça peut pas continuer comme ça. On va dans le mur. Donc, voilà, je saisis la faille. Donc, vous y croyez? Ah bah oui, sinon je ne suis pas là.
À défaut de convaincre la gauche, il reste 6 mois pour en convaincre ses électeurs.
Pas de changement, en revanche, dans l'ordre des prises de parole. C'est bien Jean-Luc Mélenchon qui clôture cette convention ce matin à 10h par un discours. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, demande que la France reconnaisse un crime d'État. Interview ce matin au Journal du Dimanche. Même appel lancé hier par les maires de 10 communes d'Île-de-France. Après la commémoration des 60 ans du massacre des Algériens de France, Emmanuel Macron, qui présidait la cérémonie hier, a parlé d'un crime inexcusable pour la République. Une première pour un président français.
Et rendez-vous à 8h20 pour en débattre avec notre invité Benjamin Stora. 2 jours après l'assassinat d'un député britannique, l'enquête se poursuit.
Avec de nouveaux éléments révélés ce matin par la presse outre-Manche, Laura Calmus, le meurtrier présumé, avait été orienté vers un programme de déradicalisation.
Depuis l'attaque terroriste de vendredi, les informations sur l'assaillant présumé filtrent au compte-gouttes. Selon la BBC, il s'appelle Ali Arbi Ali, il est britannique d'origine somalienne, arrivé au Royaume-Uni dans les années 90 avec ses parents. Son père est un ancien conseiller du premier ministre somalien, il se dit traumatisé par la nouvelle selon le Sunday Times. Ali Arbi Ali n'était pas connu des services de sécurité, mais avait toutefois été invité à suivre un programme national de lutte contre la déradicalisation il y a quelques années. Selon le tabloïd Le Sun, il aurait pris rendez-vous il y a une semaine pour rencontrer le député et aurait fait 80 km en train pour se rendre à l'église de Leyancy. Il aurait attendu calmement son tour avant de poignarder sauvagement David Amos à 12 reprises. Les services de police ont jusqu'à vendredi pour interroger le suspect et pensent qu'il a agi seul. Londres, Laura Calmus, France Inter.
En Haïti, le business des enlèvements ne faiblit pas. Une quinzaine de missionnaires américains ont été enlevés par une bande armée hier à la mi-journée, parmi eux des enfants de ces familles de missionnaires. Pas encore de demande de rançon.
Il est mis en vente par Apple à plus de 800 €, ce qui n'empêche pas des millions de consommateurs d'être intéressés.
Et certains devront s'en passer à Noël. Le dernier iPhone, l'iPhone 13, fait face à une pénurie de puces électroniques. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Apple annonce qu'elle n'atteindra pas les objectifs de production pour les fêtes de fin d'année.
La marque à la pomme avait prévu 90 millions d'iPhone 13 d'ici fin décembre, mais elle doit revoir ses objectifs à la baisse. Il faudra se contenter de 80 millions d'appareils. Un mois après sa sortie, Apple sait déjà que sa gamme de 4 nouveaux smartphones ne pourra pas compter sur tous ses composants. D'après l'agence Bloomberg, 2 fournisseurs notamment, Broadcom et Texas Instruments, ne pourront pas répondre à la demande. Demande qui a été très forte dès la sortie de l'iPhone 13 mi-septembre, notamment ici aux États-Unis, mais aussi en Chine. Et à ce rythme, il manquera au moins 5 millions de téléphones pour Noël.
D'autres entreprises sont-elles concernées par ces pénuries de composants ?
Le patron d'Apple l'a dit très vite, le groupe qu'il dirige n'est pas le seul concerné par ces pénuries. Ce ne sont pas ces choix qui font qu'Apple va manquer de ses nouveaux smartphones pour les fêtes. C'est pareil pour tout le monde. Tim Cook reconnaît juste qu'il avait un peu sous-estimé l'engouement pour ce nouvel iPhone. Sans doute que le retour à la vie post-pandémie donne envie de plus consommer chez nombre d'aficionados de la marque. Pour moins dépendre de l'Asie, Intel, le géant américain du secteur des semi-conducteurs, qu'on trouve notamment dans l'automobile, Intel a annoncé au printemps la construction de 2 usines ici aux États-Unis, 2 sites en Arizona, un investissement à 20 milliards de dollars.
Sébastien Paour, correspondant de France Inter à Washington. Eux ont filmé, mais sans iPhone, dans la Station Spatiale Internationale. L'actrice et le réalisateur russe qui viennent de tourner le premier film dans l'espace ont retrouvé la Terre ce matin. Ils vont pouvoir passer au montage. Les Russes qui ont devancé le projet américain porté par Tom Cruise. Là, c'est du classique, un des grands maîtres de la Renaissance italienne exposée à Paris au musée Jacquemart-André, Sandro Botticelli. Particularité de cette exposition, elle nous fait pénétrer dans la coulisse, dans l'atelier du peintre. Secret de fabrication dévoilé par Isabelle Pasquier.
L'iconique naissance de Vénus, la Joconde de Botticelli, n'a pas quitté Florence, mais on retrouve cette même Vénus, tellement sensuelle, avec sa chevelure aux boucles rousses qui cache son pubis. Cette femme, c'est Simonetta Vespucci, la plus belle femme de Florence. Alors avec quelques variations, Botticelli reproduit cette beauté avec un système de calques comme un multiple art et commerce. Et comme dans tous les ateliers de la Renaissance, ses assistants peignent l'étoile à ses côtés. On est bien loin de notre idée romantique de l'œuvre entièrement créée par un artiste. Anna de Benedetti, commissaire de l'exposition.
Il y a un maître d'atelier qui crée les compositions et qui parfois délègue en partie l'exécution de ses œuvres à ses assistants. Un Botticelli à l'époque, c'est un Botticelli fait dans l'atelier du maître, sous la supervision du maître. à partir des dessins du maître, mais pas forcément entièrement exécutée par lui-même. Ça n'en demeure pas moins une œuvre de Botticelli.
Et Botticelli, qui idéalise la beauté du corps féminin, va sombrer dans un mysticisme radical. En 1497, il va aller jusqu'à brûler lui-même certaines de ses toiles qu'il juge profanatrices.
À voir jusqu'au 24 janvier à Paris, musée Jacquemart André.
C'était le journal de Jérôme Cadet, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Avec du gris qui s'installe près de l'océan, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait. Par conséquent, donc un ciel nébuleux aujourd'hui de la Bretagne à l'Aquitaine, apportant même quelques gouttes possibles en fin de journée sur les côtes. Plus à l'est, le soleil va briller, mais sous un ciel de temps en temps assez voilé, du centre Val-de-Loire au nord de la Seine. Le bleu parfait sera du pourtour méditerranéen en remontant vers l'Alsace, ceci après la levée plus tardive des brouillards dans le Val-de-Saône. Avec cet après-midi, des températures de 22 à 24 degrés sur les régions méridionales, contre 14 à 15 de l'île à Strasbourg et une moyenne de 17 degrés sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski, Météo France.